Bienvenue sur Dis-moi ton hôpital, le podcast pour découvrir autrement le centre hospitalier de Dunkerque.
Bonjour à tous, dis-moi ton hôpital, nous allons nous intéresser à un service que l'on pense qu'on connaît mais qu'en fait on ne connaît pas, c'est le service de réanimation du CHD.
Dis-moi ton hôpital, le zoom du mois en 4 questions.
Le zoom du mois, nous sommes donc avec le docteur Sébastien Béag qui est praticien hospitalier responsable du service de médecine intensive et réanimation. Merci d'être avec nous docteur.
Bonjour.
Et nous sommes avec Juliette Rigbuch qui est cadre de santé du service de médecine intensive et réanimation. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, question toute simple pour commencer. Quand on parle de réanimation, qu'est-ce que ça veut dire très exactement?
Alors en France... En France et donc à Dunkerque, les unités de réanimation, c'est défini par un texte. Donc en fait, ce sont toutes des unités qui prennent en charge des patients avec au moins un organe vital qui ne fonctionne plus ou pas bien, et pour lequel on va donc mettre en place un appareil de suppléance, respirateur, dialyse, circulation extracorporelle. Enfin, il y en a à peu près, il y a des appareils pour tous les organes possibles. À Dunkerque, c'est une réanimation adulte. On prend en charge que les patients de plus de 18 ans. Et puis, il faut un petit peu préciser les choses, parce qu'effectivement, les gens ne connaissent peut-être pas bien, mais tous les patients ne dorment pas en réanimation, tous les patients ne meurent pas en réanimation. Et donc, pour nous, c'est extrêmement important, on le verra après, de maintenir les liens familiaux et sociaux lors de l'hospitalisation, que ce soit par les visites, la possibilité de faire venir les enfants en visite, etc. Et puis le maintien de la télévision, de la radio, etc.
Est-ce que c'est possible, en fait, les enfants peuvent venir
Il n'y a pas de limite d'âge pour les visites en réanimation. Ce serait un petit peu difficile d'empêcher un parent d'avoir son enfant qui vienne le voir, ou l'inverse, d'empêcher un enfant de venir voir son parent hospitalisé. Par contre, tout est très protocolé, on ne fait pas ça n'importe comment. Et donc il y a une évaluation de l'enfant, par ses parents bien évidemment au départ, et puis après par un suivi, un accompagnement par l'équipe du service et notamment la psychologue du service.
Comment on devient médecin en réanimation? Parce que ce n'est pas un service comme les autres. C'est quoi votre parcours personnel par exemple?
Alors moi je suis anesthésiste réanimateur chirurgical et diplôme d'études supérieures complémentaires de réanimation médicale. Donc moi c'est une évolution en fait. C'est d'abord j'ai choisi les spécialités médico-techniques parce que voilà, on choisit sa spécialité en fonction de ses affinités, et puis après en rencontrant d'autres collègues, d'autres professionnels de différents secteurs d'activité, on finit par s'orienter, mais je pense un peu de la même manière qu'un élève quand il fait son parcours scolaire, un peu à la fois on prend une orientation et puis après on se perfectionne et on évolue dans ce milieu-là. Mais la réanimation, c'est un service hospitalier et médical, enfin, c'est une spécialité médicale, j'allais dire, comme beaucoup d'autres. C'est-à-dire que notre objectif, comme tous les autres médecins, je pense, c'est de rendre service aux patients. On essaie de lui garantir une qualité globale de prise en charge. Il faut qu'il y ait un avenir à sa prise en charge. Et ça, je pense que c'est la prise en charge réalisée par tous les médecins. La nôtre, elle est plus technique que d'autres spécialités, mais en fait, la logique est la même.
Donc c'était l'inverse. Je suis arrivée, je voulais faire des soins palliatifs et je suis arrivée en réa et à tout ce qui est médico-technique pour aller plus loin dans la prise en charge du patient.
Parce que c'est vrai.
Et j'ai retrouvé du coup toute cette humanité que je trouvais dans les soins palliatifs, qui a été en fait qui s'est développée. On retrouve beaucoup de choses, même si ça paraît très technique.
Technique, parce qu'encore une fois, c'est pas un service comme les autres non plus.
Hein. Non, c'est pas un service comme les autres, mais bon, après c'est des rencontres, des découvertes, et toujours avec justement cette rigueur et ce côté qualité, du coup, qui fait nous, en tout cas, dans notre profession, on retrouve quelque chose qui nous aiguille, qui nous mène vers quelque chose, et c'est toujours pour le patient.
On l'avait un petit peu parlé avant de préparer ce podcast, mais aussi l'aspect équipe qui est très important dans le service de réanimation.
Oui, parce que, alors on l'a dit, pour le coup c'est très technique, donc on a des médecins et des personnels paramédicaux à compétences spécifiques formés à ces techniques de suppléance. Et on a globalement des patients extrêmement complexes, c'est leur point commun. Ils sont tous extrêmement complexes. Et donc vous comprendrez que pour avoir un soin de bonne qualité globale, il y a la vision du médecin, mais il y a aussi la vision des psychologues, la vision des infirmières, la vision des kinésithérapeutes, la vision des aides-soignantes. Enfin, on est extrêmement nombreux comme ça, et ça c'est rien qu'au sein du service, mais il faut aussi prendre en compte la vision des proches, du médecin traitant, de tous les autres intervenants, parce que on peut pas travailler tout seul. On n'a pas de... À partir du moment où il faut offrir un projet de soins adapté aux patients, il faut que on ait tout un panel d'informations permettant de l'adapter au mieux aux attentes du patient et de ses proches.
Démarche qualité en réanimation au CHD, qu'est-ce que ça veut dire très exactement? C'est votre domaine de compétences?
C'est garantir en fait une prise en charge globale de qualité et l'objectif c'est vraiment de s'améliorer sans cesse. Ça se fait en équipe médicale, paramédicale et vraiment la globalité de, c'est ce que Sébastien disait, dans le respect du patient et de ses proches. Alors, par le biais de plein de choses, hein, que ce soit les visites, la télé, la radio, c'est ce qu'on disait, la psychologue. On a mis en place des projets avec le massage, l'odorathérapie, toute la gestion qui est au niveau du bruit et des lumières pour un meilleur séjour du patient. Il y a vraiment un respect. Et le patient est entouré à tous les instants, et y compris en fin de vie. Et la qualité, c'est aussi s'améliorer sans cesse en analysant ses pratiques. La possibilité en fait, de l'équipe de parfaire tout le temps ses prises en charge, toujours regarder ensemble pour s'améliorer. Et en gros, c'est vraiment le concept de mieux vivre la réa pour tous, que ce soit pour la famille, le patient et les professionnels.
C'est un service qui évolue, la réanimation propose entre guillemets des nouveautés, on essaye toujours de se réinventer pour justement toujours être dans ce mieux soigner.
Bah, je crois que justement la grande nouveauté, c'est qu'en 2009, en réanimation, est arrivé le concept du mieux vivre. C'est-à-dire qu'on a arrêté de parler que technique, on a pris le virage. La technique, c'est bien, mais le patient, c'est une personne et la personne, elle existe par plein de facettes. Et donc les services de réanimation, paradoxalement, qui étaient un des services les plus techniques, sont devenus peut-être ceux qui, d'un seul coup, ont commencé à réfléchir à tout sauf de la technique. Donc ça, c'était le grand virage. Oui, ça évolue, ça fait 10 ans, hein, plus de 10 ans maintenant, le concept du mieux vivre. Et là, maintenant, on prend en plus le virage du « pour que le malade soit bien pris en charge, il faut que les soignants soient bien ». C'est-à-dire qu'on cherche vraiment à mesurer de manière concrète et répétée la satisfaction du patient sur sa prise en charge et son accueil. Ça paraît assez évident. Des proches du patient, pareil, sur leur accueil et la prise en charge de leurs proches. La satisfaction des médecins traitants quant à la définition du projet thérapeutique, s'ils ont été suffisamment consultés, etc. La satisfaction des personnels, ce qu'on disait, c'est qu'il faut travailler à ce que les gens soient heureux d'apporter un soin de qualité. Et ça a été montré dans plein d'entreprises, c'est extrêmement important. Et oui, donc je pense que les services de réanimation, ils évoluent, je vous dis, du purement technique, à maintenant des équipes qui vont bien pour apporter un soin, au mieux de ce qui doit être à des patients et à leurs proches.
Qu'est-ce que c'est justement alors ces exemples alors, de ce qu'on fait pour que tout le monde aille mieux ?
En pratique, il y a déjà toute une série d'outils qui ont été mis en place. Hein, comme on l'a dit, c'est tellement technique qu'il y a tout ce qui est accueil du nouvel arrivant professionnel pour qu'il soit formé de manière satisfaisante et qu'il ne se retrouve pas du jour au lendemain avec des techniques qu'il ne connaît pas, parce que c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Donc les formations initiales continuent, y compris avec un projet de formation par la simulation en coopération avec l'IFSI. Tout ce qui est documents, procédures, documents, comment on fait, les modes d'emploi tout simplement. Et puis après, les temps de parole en équipe, l'accompagnement par les psychologues, ça a été très important pendant les deux dernières années. Et puis on va juste maintenant intégrer des techniques ou des outils utilisés dans le monde de l'entreprise X ou Y, comme on a actuellement un projet de bulle de micro-sieste. La bulle de micro-sieste, c'est en fait, on a des personnels en 12 heures, enfin 12 heures pour les infirmières, 24 heures pour les médecins. Et vous comprenez qu'avec la charge de travail et mentale qu'il peut y avoir pendant ces 12 heures, on a besoin par moment de se ressourcer. En fait, donc c'est un outil qui va nous permettre de régulièrement, mais enfin une fois par jour, j'allais dire, de faire une pause de quelques minutes de manière complètement isolée, déconnectée du monde, puisqu'en fait ça isole du bruit, de la lumière et ambiante. Et il a été montré dans le milieu de l'entreprise que ça a augmenté les performances globales et la réactivité des personnels qui utilisaient cet outil. Et tout ça, bien, c'est pas à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on va ensuite analyser les anomalies en équipe pour faire avancer quand il y a des anomalies, et puis surtout, on va, je vous dis, surveiller tous les indicateurs de qualité de prise en charge, d'accueil, médico-économique, de satisfaction. tout ça, on l'analyse, on l'inscrit dans un plan d'action, et comme ça, tous les ans, en fait, puisque c'est des plans d'action annuels, tous les ans, on continue d'avancer, on retrouve des nouveaux projets, on recrée des nouvelles choses, et on essaye d'avancer sans arrêt pour offrir ce qu'on peut offrir de mieux à nos patients, à leurs proches et à tous les gens qui interviennent dans le service.
On continue à évoquer le service de réanimation dans ce podcast. On avait un petit peu parlé avec le directeur lors des vœux. Dans le projet d'établissement, le service de réanimation aussi est concerné. C'est un service qui va évoluer un petit peu.
Oui, nous sommes en train de réfléchir de coup sur les plans avec certaines entreprises qui sont en lice. L'objectif, c'est d'avoir un nouveau projet, une nouvelle réa, hémodialyse et effectivement néphrologie, qui serait à côté de la maternité. On aurait des nouveaux murs pour 2024.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je pense qu'on a été complet. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Dis-moi ton hôpital. En bref.
Deuxième partie de notre podcast Dis-moi ton hôpital, nous allons revenir sur l'actualité de ces prochaines semaines. Actualité tout d'abord à l'Institut de formation en santé du Centre hospitalier de Dunkerque. L'Institut qui prépare au diplôme d'état infirmier et au diplôme d'aide-soignant. L'Institut qui poursuit le développement de la voie d'accès au diplôme d'infirmier et d'aide-soignant par l'apprentissage. Et ce pour les établissements publics et privés. Alors plus d'informations en se rapprochant du secrétariat de l'Institut. Le numéro de téléphone, c'est le 03 28 28 56 80. Des tables de pique-nique pour le site du CHD. Grâce aux dons du Grand Port Maritime de Dunkerque, l'hôpital a pu acquérir des tables de pique-nique pour le personnel. Alors, elles sont installées sur la terrasse de la Pergola et sur le site de l'ancien hôpital. Encore merci à Grand Port Maritime pour sa générosité qui permet d'améliorer le cadre de vie au travail et la qualité de vie des agents hospitaliers. Reprise des séances de détente et de bien-être pour les patients atteints de cancer hospitalisés au CHD. Grâce au financement de la Ligue contre le cancer du Nord et au soutien de l'association Au-delà du cancer, les séances de détente et de relaxation par la musique douce reprennent à l'hôpital de jour. Oncologie, hématologie et séances thérapeutiques au 5e étage Est. C'est à partir de la deuxième quinzaine de mai. En pratique, 20 minutes de détente qui sont proposées aux patients dans leur chambre avec de l'écoute de sons apaisants, respiration abdominale et vocalise. La fin du mois de mai marque également le retour des soins de socio-esthétique pour les patients du CHD hospitalisés. En hématologie, c'est le 3e étage Est, et à l'hôpital de jour, oncologie, hématologie et séances thérapeutiques. En pratique, séances personnalisées, des soins sont proposés avec aussi de nombreux conseils qui sont donnés aux patients pour les aider à faire face à certains effets secondaires du traitement. Merci à l'association Laurette Fugain pour le financement des séances de socio-esthétique à l'hôpital. Un point sur les prochains événements au centre hospitalier de Dunkerque. Dépistage gratuit du diabète. Ce sera le 4 juin prochain de 14h à 18h sur la place Jean Barre. Vous pourrez bénéficier d'un dépistage gratuit du diabète et poser toutes vos questions aux professionnels du groupe Littoral Diabète, dont le CHD en fait partie. Cette opération se déroule dans le cadre de la semaine Tous Acteurs pour Dunkerque, organisée par la ville de Dunkerque du 4 au 11 juin. Journée mondiale de la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, qui reste encore une maladie méconnue du grand public, est trop souvent rattachée à l'image du fauteuil roulant. Cette représentation ne reflète pas la réalité de la plupart des malades qui peuvent être gênés par d'autres symptômes moins visibles. Rendez-vous le 9 juin de 13h30 à 16h30 à la maison des usagers du centre hospitalier. Au programme, des échanges avec les professionnels autour de la sclérose en plaques, au quotidien et la place des aidants. Exposition sur les symptômes invisibles de la sclérose en plaques. Merci encore de nous avoir suivis. Puis n'hésitez pas, toute l'actualité, tous les événements du centre hospitalier, vous les retrouvez sur les réseaux sociaux et sur le site internet de l'hôpital.
Merci et à bientôt dans Dis-moi ton hôpital. Retrouvez-nous en attendant sur www.ch-dunkerque.fr. Et suivez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube @CH Dunkerque.